Première partie, les pionniers des AA. Dr. Bob, les neuf hommes et femmes qui racontent ici leur espoir, étaient parmi les membres pionniers des premiers groupes des AA. Ces 10 personnes sont toutes décédées de causes naturelles et sont restées totalement abstinentes. De nos jours, on trouve encore des centaines d'autres membres des AA qui n'ont pas eu de rechute pendant plus de 50 ans. Toutes sont donc des pionniers des AA. Ils témoignent que la libération de l'alcoolisme peut être vraiment permanente. Le troisième membre des Alcooliques anonymes. Il a été un des membres pionniers du groupe d'Akron numéro 1, le premier groupe des AA au monde. Il a gardé la foi. En conséquence, lui et des milliers d'autres ont trouvé une nouvelle vie. Je suis né dans une ferme du Kentucky, dans le comté de Carlisle, dans une famille de 5 enfants. Mes parents étaient aisés et leur ménage était heureux. Ma femme, originaire du Kentucky, est venue avec moi à Akron et c'est à la faculté de droit de cette ville que j'ai terminé mes études. Dans un sens, mon cas est un peu inhabituel. Il n'y a pas eu d'épisode malheureux dans mon enfance pour justifier mon alcoolisme. Il semble que j'avais simplement un penchant naturel pour la boisson. J'étais heureux en ménage et je n'ai jamais eu recours aux raisons, conscientes ou inconscientes, souvent évoquées pour boire. Pourtant, comme les démons de mon histoire, je suis devenu un cas très sérieux. Avant que la boisson ne me détruise complètement, j'ai connu un grand succès, ayant été conseiller municipal pendant 5 ans et directeur financier d'une banlieue annexée plus tard à la ville. Bien sûr, tout est tombé à l'eau à mesure que ma consommation d'alcool augmentait. Au moment où Dr. Bob et Bill se sont présentés, j'étais presque à bout de force. J'avais 8 ans la première fois que je me suis enivrée. Ce n'était pas la faute de mon père ou de ma mère, puisqu'ils étaient tout à fait opposés à l'alcool. Quelques garçons de ferme avaient été engagés pour nettoyer la grange. J'allais et venais dans la charrette, et pendant qu'ils la chargeaient, j'en profitais pour boire du cidre fort qui se trouvait dans un baril dans la grange. Au retour, après 2 ou 3 chargements, je me suis évanouie et on a dû me conduire à la maison. Je me souviens que mon père gardait de l'alcool à la maison pour des raisons médicales et pour les visiteurs. J'en buvais lorsque personne ne me voyait et j'ajoutais ensuite de l'eau dans la bouteille pour que mes parents ne s'aperçoivent pas que je buvais. Le manège a continué jusqu'à ce que je m'inscrive à notre université d'État et à la fin des 4 années, j'ai constaté que j'étais un ivrogne. Chaque matin, je me réveillais malade avec d'affreux tremblements, mais il y avait toujours une bouteille d'alcool sur ma table de chevet. Je tendais la main. Je la saisissais et buvais à même le goulot. Un peu plus tard, je me levais pour prendre une autre gorgée. Je me rasais, je déjeunais, je glissais encore 2 litres d'alcool dans ma poche et je partais pour l'université. Entre 2 cours, je me précipitais aux toilettes, je buvais une quantité suffisante pour me calmer les nerfs et je me rendais au cours suivant. Nous étions en 1917. J'ai quitté l'université pendant le dernier trimestre de ma 4e année pour m'enrôler dans l'armée. À ce moment-là, je me disais que c'était du patriotisme. Plus tard, j'ai compris que c'était pour fuir l'alcool. D'une certaine façon, cela m'a rendu service puisque je me suis retrouvée dans des endroits où je ne pouvais pas me procurer d'alcool, interrompant ainsi ma façon de boire habituelle. Puis arriva la prohibition. Comme l'alcool qu'on pouvait obtenir était si mauvais, parfois même mortel, et puisque j'étais mariée et que j'avais un emploi dont il fallait que je m'occupe, tout cela a contribué à m'aider pendant 3 ou 4 ans, même si je me saoulais chaque fois que je pouvais mettre la main sur assez d'alcool pour commencer une fuite. Ma femme et moi faisions partie du club de bridge et les membres ont commencé à fabriquer et à servir leur vin. Après en avoir pris 2 ou 3 fois, j'ai décidé que cela n'en valait pas la peine parce qu'il n'en offrait pas assez à mon goût. J'ai donc refusé de boire. J'ai vite trouvé une solution, toutefois, en apportant ma propre bouteille et en la cachant dans les toilettes ou dans les bosquets à l'extérieur. Avec le temps, j'ai bu de plus en plus. Je n'allais pas au bureau pendant 2 ou 3 semaines de suite, des jours et des nuits horribles où, étendu sur le plancher de ma maison, je m'étirais pour prendre la bouteille, je prenais une gorgée et je retombais dans l'inconscience. Pendant les 6 premiers mois de 1935, j'ai été hospitalisé 8 fois pour intoxication, enchaîné au lit 2 ou 3 jours avant même de savoir où j'étais. Le 26 juin 1935, je suis revenu à l'hôpital et le mot découragement est faible pour décrire mon état d'esprit. Les 7 fois où j'avais quitté cet hôpital pendant les 6 mois précédents, j'étais décidé à ne pas m'enivrer, pendant au moins 6 ou 8 mois. Ce n'est pas ce qui est arrivé et je ne savais pas pourquoi ni quoi faire. On m'a transféré dans une autre chambre ce matin-là. Ma femme m'y attendait. J'ai cru qu'elle allait m'annoncer qu'elle me quittait et je ne pouvais le lui reprocher. Je ne tenterais même pas d'excuser ma conduite. Elle m'a dit qu'elle avait discuté avec 2 hommes au sujet de l'alcoolisme. Je l'ai très mal pris jusqu'à ce qu'elle m'explique qu'ils étaient eux aussi des ivrognes comme moi. Parler à des semblables, ce n'était pas si mal. Elle m'a dit « Tu as cessé de boire ». Cela m'a fait du bien à entendre, même si je n'y croyais pas. Elle a ajouté ensuite que les 2 ivrognes en question avaient une méthode grâce à laquelle ils croyaient pouvoir cesser de boire, et l'un des éléments de cette méthode était de la transmettre à un autre ivrogne. C'est ce qui allait les aider à demeurer abstinents. Toutes les personnes qui m'avaient parlé auparavant prétendaient m'aider, moi. Mon orgueil m'avait empêché de les écouter, et ne faisait qu'augmenter mon ressentiment, mais je sentais qu'il serait malvenu de ma part de refuser d'écouter un peu ces 2 personnes si ça pouvait les aider. Ma femme a ajouté que je ne pourrais pas les payer, même si je le voulais, et si j'en étais capable, ce qui n'était pas mon cas. Ils sont venus et ont commencé à m'expliquer le programme qui allait être connu plus tard sous le nom des Alcooliques Anonymes. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. En levant la tête, j'ai aperçu 2 gaillards d'apparence très sévatique, mesurant plus de 6 pieds. J'ai appris plus tard que ces 2 hommes étaient Bill W. et Dr. Bob. Nous nous sommes mis à raconter nos aventures d'alcool et bien vite, j'ai constaté que ces 2-là savaient de quoi ils parlaient parce qu'on ressent des choses en état d'ébriété qu'on ne ressent pas autrement. Si j'avais senti qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi, je n'aurais pas accepté de leur parler. Après un certain temps, Bill a dit « Bon, tu as parlé pendant longtemps et maintenant, laisse-moi placer un mot pendant 1 minute ou 2. » Après m'avoir entendu un peu plus de mon histoire, il s'est tourné vers Bob. Je crois qu'il ne savait pas que je l'avais entendu et lui a dit « Je crois bien qu'il mérite d'être aidé. » Ils m'ont dit « Veux-tu cesser de boire? Nous ne voulons pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Nous n'essayons pas de te priver de tes droits et de tes prérogatives, mais nous possédons une méthode grâce à laquelle... nous croyons pouvoir demeurer abstinents. Un des éléments de la méthode consiste à porter ce message à une autre personne qui en a besoin et qui désire l'essayer. Alors, si tu ne veux pas en faire l'essai, nous ne te dérangerons pas plus longtemps et nous chercherons quelqu'un d'autre. » Ils ont ensuite voulu savoir si je pensais pouvoir arrêter de boire par mes propres moyens, sans aide, si je pouvais simplement quitter l'hôpital et ne plus jamais prendre un verre. Si je le pouvais, tant mieux, c'était parfait. Il serait très content d'avoir une personne qui avait cette volonté, mais il recherchait un homme conscient d'avoir un problème et certain d'être incapable de s'en tirer seul, sans aide extérieure. Ils ont voulu savoir ensuite si je croyais à une puissance supérieure. La réponse à cette question était facile à trouver, puisque je n'avais jamais vraiment cessé de croire en Dieu et j'avais souvent, mais sans succès, cherché son aide. Puis, ils ont voulu savoir si je serais prêt à demander l'aide de cette puissance supérieure, calmement et sans aucune réserve. Ils sont partis pour me laisser réfléchir à tout ça, et je suis restée étendue sur mon lit d'hôpital. J'ai récapitulé les événements de ma vie. J'ai réfléchi à ce que l'alcool avait fait de moi, aux chances que j'avais laissées passer, aux talents que j'avais reçus et gaspillés, et j'en suis venue à la conclusion que même si je ne souhaitais pas arrêter, je me devais de le désirer, et j'étais prêt à tout faire pour cesser de boire. J'étais prêt à admettre que j'avais atteint le fond de l'abîme, que je faisais face à un problème que je ne pouvais pas résoudre seul. Après avoir analysé tout cela et avoir vu ce que l'alcool m'avait coûté, j'ai fait appel sans réserve à cette puissance supérieure que j'appelle Dieu. J'ai admis que j'étais tout à fait impuissante devant l'alcool et que j'étais décidée à faire n'importe quoi pour me débarrasser de ce problème. En fait, j'ai admis qu'à partir de ce moment, j'étais consentant à laisser agir Dieu au lieu de n'en faire qu'à ma tête. Chaque jour, je tenterais de découvrir ce qui était sa volonté à mon égard et j'essaierais d'agir en conséquence au lieu de lui demander de toujours répondre à mes demandes fondées sur des besoins illusoires. C'est ce que j'ai dit aux 2 hommes lorsqu'ils sont revenus me voir. L'un d'eux, je pense que c'est Doc, m'a demandé « Ainsi, tu veux cesser de boire? » J'ai répondu « Oui, Doc, j'aimerais cesser de boire pour au moins 5, 6 ou 8 mois, le temps de me remettre d'aplomb, de retrouver le respect de ma femme et d'autres personnes et de remettre mes finances en ordre. » Ils se sont mis à rire de bon cœur. Ils ont dit, C'est plus que tu n'as réussi à faire jusqu'ici, n'est-ce pas? C'était vrai. Ils ont ajouté, nous avons de mauvaises nouvelles à t'annoncer. Elles ont été mauvaises pour nous et elles seront sans doute pour toi. Que tu cesses de boire pendant 6 jours, 6 mois ou 6 ans, si tu reprends un verre ou deux, tu te retrouveras à nouveau attaché à ce lit d'hôpital, comme au cours des 6 mois que tu viens de vivre. Tu es un alcoolique. Pour autant que je me rappelle, c'était la première fois que j'accordais de l'importance à ce mot. Je pensais que je n'étais qu'un ivrogne. Ils m'ont appris que j'étais atteint d'une maladie et que peu importe la durée de mon abstinence, je me retrouverais dans le même état que maintenant si je prenais un verre ou deux. C'était vraiment des nouvelles décourageantes à entendre à ce moment-là. Ils m'ont ensuite demandé si j'étais capable de demeurer abstinent pendant 24 heures. Je leur ai répondu, n'importe qui pouvait demeurer abstinent pendant 24 heures. C'est de cela que nous parlons. Seulement 24 heures à la fois, ont-ils ajouté. C'était vraiment un gros poids de moins sur mes épaules. Chaque fois que je pensais à boire, l'idée de rester à sec pendant l'interminable année me revenait à l'esprit, mais cette idée des 24 heures et que je vais jouer à partir de maintenant m'a beaucoup aidé. À cet endroit, les éditeurs ont interrompu le récit de Bill D., qui était l'homme sur le lit, pour insérer le témoignage de Bill W., l'homme qui se trouvait à côté du lit. Voici le récit de Bill W. Le docteur Bob et moi l'avons rencontré, Bill D., pour la première fois il y a 19 ans. Bill se retrouvait dans un lit d'hôpital et nous regardait avec étonnement. 2 jours auparavant, le docteur Bob m'avait dit « Si nous voulons demeurer abstinents, toi et moi, nous devons agir. » Immédiatement, Bob a téléphoné à l'hôpital de la ville d'Akron et a demandé à parler à l'infirmière de garde au service des urgences. Il a expliqué que lui-même et un homme de New York avaient trouvé un remède à l'alcoolisme. Avait-elle un patient alcooliste sur qui ce remède pouvait être essayé? Connaissant Bob depuis longtemps, elle a rétorqué, l'a rémisé, « Eh bien, docteur, j'imagine que vous l'avez essayé sur lui-même. » Oui, il y avait un tel patient, un vrai numéro. Il venait d'arriver en désintoxication. Il avait mis un œil au beurre noir à 2 infirmières et il était maintenant solidement attaché. Ferait-il l'affaire? Après lui avoir prescrit les médicaments, le docteur Bob a donné l'ordre de le transporter dans une chambre privée. Nous irons lui rendre visite aussitôt qu'il sera calmé. Bill n'a pas semblé très impressionné. Plus triste que jamais, il a dit d'un ton las, « Bien, c'est merveilleux pour vous deux, mais ça ne peut pas réussir pour moi. Mon cas est si avancé que j'ai peur de m'aventurer à l'extérieur de cet hôpital. Vous n'avez pas à me vanter la religion. J'ai déjà porté le titre de diacre dans mon église et je crois encore en Dieu. J'imagine cependant qu'il ne croit plus beaucoup en moi. » Puis le docteur Bob a dit, « Eh bien, Bill, peut-être te sentiras-tu mieux demain? N'aimerais-tu pas nous voir de nouveau? » « Bien sûr, » répondit Bill. « Cela ne me fera peut-être pas changer, mais j'aimerais quand même vous revoir tous les deux. Vous savez de quoi vous parlez. » Plus tard, nous avons trouvé Bill en compagnie de sa femme, Henrietta. Vivement, il nous a montré du doigt en disant « Ce sont les gars dont je t'ai parlé. Eux, ils comprennent. » Bill nous a raconté alors comment il était resté éveillé presque toute la nuit. Au plus profond de sa dépression, un nouvel espoir était né. Une pensée avait surgi dans son esprit. « S'ils y sont arrivés, moi aussi je le peux. » Il s'est répété cette phrase plusieurs fois. Finalement, de cette lueur d'espoir a jailli la conviction. Il en était maintenant certain. Puis il a senti une grande joie l'envahir. Après un certain temps, une sorte de paix s'est emparée de lui et il s'est endormi. Avant de le quitter, Bill s'est soudain tourné vers sa femme et lui a dit « Va chercher mes vêtements, chérie. Je vais me lever et sortir d'ici. » Bill Day est sorti libéré de cet hôpital et il n'a plus jamais bu. Le groupe numéro 1 des AA est né ce jour-là. Bill D. poursuit son histoire. C'est 2 ou 3 jours après ma première rencontre avec Doc et Bill que j'en suis venu à décider de confier ma volonté à Dieu et à accepter de suivre ce programme du mieux que je le pouvais. Leurs paroles ainsi que leurs gestes m'avaient donné une certaine confiance, même si je n'étais pas absolument rassurée. Je ne doutais pas de l'efficacité du programme, mais je doutais de ma capacité de persévérer. J'en suis néanmoins venu à conclure que j'étais prêt à m'y donner sans réserve et qu'avec l'aide de Dieu, j'y arriverais. Aussitôt, j'ai senti une grande libération. Je savais qu'il y avait quelqu'un sur qui je pouvais compter, qui ne m'abandonnerait pas. Si je pouvais me tenir près de lui et écouter, j'y arriverais. Puis je me rappelle que lorsque les gars sont revenus, je leur ai dit, j'ai parlé à cette puissance supérieure et je lui ai dit que j'étais prêt à faire sa volonté en tout premier lieu. C'est déjà fait et je suis prêt à le faire de nouveau devant moi, vous, ou encore à le répéter sans honte n'importe où dans le monde à partir de maintenant. Cela m'a certainement donné beaucoup de confiance et je me suis sentie soulagée d'un grand poids. Je me rappelle aussi leur avoir dit que ce serait très difficile à faire parce que j'avais d'autres mauvaises habitudes, telles la cigarette, les cartes et à l'occasion les courses de chevaux. Ils m'ont répondu « Ne crois-tu pas avoir plus de problèmes avec la boisson qu'avec toute autre chose en ce moment? Ne crois-tu pas que tu auras bien assez de travail avec ce seul problème? » Un peu malgré moi, j'ai reconnu que c'était sans doute vrai. Ils ont ajouté « Oublie ces autres habitudes et concentre-toi sur l'alcool au lieu d'essayer de tout éliminer en même temps. » Bien sûr, nous avions parlé de plusieurs de mes faiblesses et nous avions fait une espèce d'inventaire, ce qui ne fut pas très difficile parce que j'étais conscient d'avoir beaucoup de défauts. Ils ont ajouté ensuite « Il y a autre chose. Tu devrais te mettre en route et porter ce programme à une personne qui en a besoin et qui le veut. » Il va sans doute dire qu'à cette époque, mes affaires étaient pratiquement au point mort. Je n'avais pas de clients. Évidemment, je ne retrouverai pas ma santé tout de suite non plus. Il m'a fallu un an ou un an et demi avant de me sentir bien physiquement et ce fut assez difficile, mais j'ai vite retrouvé l'amitié de gens que j'avais éloignés et après un certain temps d'abstinence, ces personnes ont commencé à se comporter avec moi comme par le passé, avant ma maladie, de sorte que je n'accordais pas une importance excessive à me procurer de l'argent. Je passais le plus clair de mon temps à rétablir mes amitiés et à réparer mes torts envers ma femme que j'avais beaucoup blessée. Il me serait difficile d'évaluer tout ce que les AA ont fait pour moi. Je voulais vraiment connaître le programme et le mettre en pratique. J'ai remarqué que les autres semblaient si libérés, si heureux, en possession d'une chose si enviable. Je cherchais la réponse. Je savais qu'il y avait encore plus, quelque chose que je n'avais pas. Je me rappelle qu'une semaine ou deux après ma sortie de l'hôpital, Bill était chez moi et nous discutions en compagnie de ma femme. Nous étions en train de dîner et j'écoutais, espérant comprendre comment ils en étaient arrivés à être libérés. Bill se tournait vers ma femme et lui a dit « Henrietta, le Seigneur a été tellement bon pour moi en me guérissant de cette terrible maladie que je voudrais pouvoir en parler continuellement à tout le monde. » Je me suis dit que j'avais ma réponse. Bill était très, très reconnaissant envers Dieu pour sa libération de l'alcool et il le remerciait et par gratitude, il voulait en parler aux autres. Cette phrase, « Le Seigneur a été tellement bon pour moi en me guérissant de cette terrible maladie que je voudrais pouvoir en parler continuellement à tout le monde », est devenue une sorte de maxime dorée pour le programme des AA et pour moi. Évidemment, avec le temps, j'ai commencé à recouvrir la santé. J'ai cessé de fuir les gens et aujourd'hui, je trouve la vie merveilleuse. J'assiste encore aux réunions parce que j'aime ça. Je rencontre les gens avec qui j'aime parler. Une autre des raisons pour lesquelles je vais aux réunions, c'est que j'ai de la gratitude pour les bonnes années que j'ai connues. J'ai tellement de reconnaissance envers le programme et les personnes qui y participent que je désire encore y aller. La pensée la plus merveilleuse que j'ai retenue du programme, je l'ai lue plusieurs fois dans le AA Grapevine. Des gens m'en ont parlé personnellement et d'autres en ont parlé dans des réunions, c'est celle-ci. Je suis venue chez les AA uniquement pour trouver l'abstinence, mais c'est grâce aux AA que j'ai trouvé Dieu. D'après moi, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à quelqu'un.